C'est maximal en Haïti, le pays est touché par une épidémie de choléra.
Haïti doit faire face à une nouvelle menace, le choléra.
Au moins 135 morts ont déjà été recensés et plus de 1500 malades.
Mécanique des épidémies. Première saison, le choléra en Haïti, 2010-2019.
Quand l'épidémiologiste Renaud Piarou est invité en Haïti en octobre 2010, il ne sait pas encore qu'il va révéler un scandale politique et scientifique mondial et qu'il s'engage dans une bataille de 8 années pour faire accepter la vérité et ainsi stopper l'épidémie. On vous propose de passer de l'autre côté du miroir, de découvrir les coulisses de 5 pandémies et épidémies récentes du point de vue d'un médecin de terrain, d'un chercheur, pour comprendre comment apparaissent ces maladies, comment les sociétés et les politiques réagissent et comment elles impactent nos vies.
Premier épisode, un début surprenant.
Je suis Renaud Piarou, je suis spécialisé dans les maladies infectieuses et dans les épidémies. Un épidémiologiste, c'est un enquêteur, c'est comme un policier, sauf que le policier rend le résultat de son enquête et puis d'autres prennent en charge la suite. Là, c'est une investigation qui conduit à des recommandations, donc comme une ordonnance en quelque sorte. Donc c'est plus proche de l'investigation qui est menée par un médecin. Le samedi 23 octobre 2010, j'étais effectivement dans mon bureau à Marseille, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Je viens les samedis matins pour travailler et je reçois un mail qui vient d'un collègue avec qui j'avais travaillé sur le choléra aux Comores et qui me transmet une demande de l'ambassade de France en Haïti. En fait, depuis seulement 24-48 heures, on est averti d'une très très forte épidémie de choléra en Haïti et le gouvernement haïtien s'est retourné vers l'ambassade de France en disant « on a besoin d'aide » et l'ambassade de France s'est dit « tiens, pourquoi pas un épidémiologiste ?» Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire le relais auprès du professeur Piarou ? Il me faudrait un CV, entre guillemets, orienté choléra du professeur et savoir s'il pourrait être disponible dans les jours qui viennent, si oui, à quelle date, pour une mission en Haïti. Cordialement, Serge Boursin. Quand je lis ça, ma première réaction, c'est de m'apercevoir que je ne suis pas disponible immédiatement. Donc je dis à mon collègue, j'aurais bien aimé pouvoir venir, mais je ne suis pas disponible dans les 15 prochains jours. Le mieux, c'est que vous essayiez de trouver quelqu'un d'autre. Ils n'ont trouvé personne, parce qu'en réalité, il y a très peu de personnes qui font ça, qui font des investigations d'épidémie. Et donc, 15 jours après, ils ont toujours trouvé personne. Et à ce moment-là, le gouvernement haïtien insiste de plus en plus auprès de l'ambassade de France pour que cette épidémie donne lieu à une investigation. Et ça, c'est quelque chose de pas tout à fait habituel. Le temps passe un peu. Au tout début du mois de novembre, je monte dans l'avion et j'arrive sur place pour faire l'investigation. En arrivant en Haïti, on est le 7 novembre 2010, l'impression principale, c'est un pays dévasté. Il y a eu un tremblement de terre au mois de janvier, c'est 9 mois, donc il y a des tas de gravats partout, des maisons détruites partout. Le tremblement de terre a été extrêmement destructeur. Il a fait entre 100 000 et 300 000 morts. Et au milieu de ces gravats, des campements en toile sur n'importe quel espace disponible. Il y a plus d'1 million de personnes qui vivent sous tente à ce moment-là pour une population de 2 à 3 millions pour l'agglomération de Port-au-Prince. Je rencontre un certain nombre de collègues haïtiens, des médecins, des universitaires, en particulier le professeur Jean-Hugues Henrys, qui va m'accompagner sur des années et des années dans cette histoire. Et on commence à discuter de cette épidémie. Cette épidémie a un côté surprenant, un côté inhabituel. Et la chose qui surprend, c'est le mode de démarrage. Dans une épidémie, on part d'un premier cas qui en contamine plusieurs, qui vont contaminer. Donc on a ce qu'on appelle maintenant une exponentielle. Mais ça prend du temps. Même si on double le nombre de cas tous les deux jours, par exemple, ce qui est une dynamique épidémique extrêmement violente, si on part d'un premier cas, il faut 3 semaines pour arriver à 1 millier de cas. Donc ça peut être une montagne, mais une montagne avec une pente très très raide, mais ça reste une pente progressive. Dans cette épidémie, la courbe épidémique est une falaise. Rien, absolument rien, jusqu'au 20 octobre. Et à partir du 20 octobre, dans une région qui est le delta du principal fleuve d'Haïti, qui s'appelle l'Artibonite, on a tout d'un coup, le 20 octobre, 500 personnes qui arrivent à l'hôpital de Saint-Marc, une petite ville de 200 000 habitants. Il y en a à peu près autant qui vont dans les autres structures de soins du delta, donc ça fait à peu près 1 millier. Le lendemain, c'est 1 000 à Saint-Marc, 2 000 en tout. Le surlendemain, encore 1 000 et 2 000.
À l'entrée de l'hôpital, un gardien essaye comme il peut de limiter l'afflux des patients.
Nous sommes vraiment débordés par la quantité, le nombre de patients qui nous arrivent. Donc on est bien obligé de les recevoir.
Et ça pendant quelques jours. Et puis après 4-5 jours, ça recommence à descendre. Ça ne colle pas avec ce qu'on considère comme une épidémie.
J'ai transporté cet homme jusqu'ici. Ils ne l'ont pas laissé entrer. Il est mort à la porte de l'hôpital.
Au moins 135 morts ont déjà été recensés et plus de 1500 malades.
Ça colle beaucoup mieux à quelque chose qu'on appelle une anadémie. Une anadémie, c'est une contamination collective à la même source. Un peu comme une intoxication alimentaire à la cantine. C'est pas un élève qui contamine un autre, qui en contamine deux autres, etc. C'est tout le monde va manger le même repas et ceux qui auront mangé ce repas-là avec une bactérie qui contamine, par exemple, un pâté, une mayonnaise, je sais pas, vont tomber malades. Eh bien, on a exactement la même chose.
La capacité de l'hôpital ne peut pas recevoir tous ces gens. La situation est véritablement catastrophique au niveau de l'hôpital.
Il y a des malades partout, dans les pavillons, mais aussi entre les pavillons. Il y a des personnes allongées par terre, allongées sur des bancs.
Les malades sont partout, dans la cour, dans les bureaux. Et on installe même des lits dans la salle des archives.
Donc, vraiment, un hôpital submergé par des malades qui ont tous la même maladie, diarrhée, vomissement, déshydratation.
Il faut d'urgence réhydrater tous ces malades. Ici, on manque de tout, de médecins, de médicaments.
Cet aspect en falaise m'indique qu'on n'a pas affaire à une épidémie habituelle, mais donc à une contamination par une seule source. Et quand on regarde la zone touchée, la source devient assez rapidement évidente. Ça veut dire que le fleuve Artibonite a, pendant un moment donné, charrié suffisamment du microbe du choléra, qui s'appelle Vibrio cholerae, pour que les gens qui viennent chercher l'eau et la boire ou l'utiliser dans la cuisine puissent se contaminer de manière massive. L'investigation, donc, s'intéresse à ce qui se passe en amont du delta de l'Artibonite. Et là, on est dans le centre d'Haïti, dans une région de collines, mais plus du tout dans un delta. On s'aperçoit, avec les collègues haïtiens, que un hôpital, l'hôpital de Mirbalais, donc c'est une ville qui se trouve dans le centre d'Haïti, a, plusieurs jours avant la flambée épidémique du bas Artibonite, reçu un nombre anormal, plusieurs centaines par jour à un moment, de patients qui présentaient les mêmes symptômes, diarrhée, vomissement, déshydratation. On est juste donc dans les mois qui suivent le séisme et Cuba a envoyé pas mal de médecins pour aider Haïti. Et à l'hôpital de Mirbalais, effectivement, il y a une équipe à la fois haïtienne et une équipe cubaine. Donc, je vais les voir. Et là, il me passe d'abord les informations sur les dates d'arrivée des premiers patients et sur leur lieu d'arrivée. Tous me disent, les premiers cas, c'est pas le 20, 21, 22 octobre. Les premiers cas, nous, on les a vus à partir du 16 et du 17 octobre. Et surtout, le 18 octobre, c'est un lundi, là, il y a vraiment beaucoup de cas, 300 nouveaux cas dans la journée. Dirbalay, c'est une petite ville de 80 000 habitants, 300 personnes qui arrivent dans le même hôpital pour des diarrhées, des vomissements et quelque chose d'anormal. Et ils vont plus loin, ils expliquent qu'en regardant les adresses des tout premiers cas, ces personnes-là habitaient un petit village à quelques kilomètres au sud. Quand on va à ce village, alors par prudence, je ne me montre pas. Je demande à mes collègues haïtiens d'aller poser quelques questions. Et là, plusieurs enseignements. En fait, au niveau de ce village, il y a un camp militaire. Un camp militaire de l'ONU. L'ONU est présente en Haïti. C'est une mission de maintien de la paix. Elle a commencé en 2004. Donc on est en 2010, ça fait 6 ans. Évidemment, les soldats sont renouvelés. Et il vient d'y avoir, au début du mois d'octobre, une relève des soldats. Il s'appelle Camp Annapurna, il est tenu par des soldats népalais. Il y a plusieurs centaines de soldats à cet endroit-là. Et le choléra, l'épidémie de choléra, a commencé dans le petit village qui est en face, une vingtaine de maisons. Ce petit village s'appelle Mei. Le camp militaire est donc situé dans une boucle d'une petite rivière et les habitants expliquent qu'il y avait des tuyaux à cet endroit-là qui déversaient des choses noirâtres et nauséabondes, des matières fécales. Et puis, en cherchant un peu plus, un contractant, une entreprise haïtienne, était chargée de vider ces fosses septiques. Et en fait, elle venait simplement transporter la matière noire vers une espèce de mare, un cloaque, qui se trouvait juste de l'autre côté du village, 50 ou 100 mètres plus loin, en haut d'une petite butte. Évidemment, dès qu'il pleuvait, tout ça redescendait vers le ruisseau. Donc il y avait le fait que des soldats venaient d'arriver, le fait que la gestion des sanitaires était calamiteuse, les tuyaux avaient été enlevés très vite.
UN soldiers working furiously to contain what looks like a sewage spill at this base in Haiti's rural heartland.
Il y avait sur YouTube un petit film où on voyait les soldats en train d'enlever les tuyaux et un journaliste américain qui s'appelait Sébastien Walker qui interroge mais qu'est-ce que vous faites là, etc.
Are these toilets here? What are you digging? Why are you digging here?
Et le chef des militaires, un peu embarrassé, pour expliquer ce qu'ils étaient en train d'enlever.
Well, we're not being told exactly what's going on here, but it certainly smells like sewage. There are toilets right there, and the liquid seems to be draining into this river just a few meters away.
Et très clairement, les soldats n'avaient de cesse que d'enlever, 5-6 jours après le début de l'épidémie, toute trace de leur gestion un peu hasardeuse des matières fécales.
Mais pour faire accepter l'idée que le choléra a été importé en Haïti par les soldats de l'ONU, l'épidémiologiste Renaud Piarou va se confronter à un mur politique.
Good.
deuxième épisode, à la source de la bombe bactériologique.
Protests turn fiery. Citizens blame Nepalese peacekeepers for bringing the deadly waterborne disease cholera to Haiti.
Lorsque je fais mon enquête, le climat est quand même très compliqué. À la mi-novembre, il y a des émeutes. La population est convaincue que c'est les soldats qui ont amené le choléra. Et elle est d'autant plus convaincue qu'on s'aperçoit assez rapidement qu'au moment où les soldats partaient du Népal, il y avait une épidémie de choléra au Népal.
This is what you see when you land in the riots. He says they're harming the delivery of aid to innocent.
Donc le climat est très lourd, c'est compliqué d'aborder ces sujets, mais je travaille avec le ministère de la Santé, je travaille avec l'ambassade de France, donc on va rencontrer le chef de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies, et je lui explique la situation, et j'explique que le choléra va bien commencer aux alentours du camp militaire et que il est difficile de penser qu'il y ait une autre origine que les soldats eux-mêmes. Il l'écoute très bien, il se rebelle pas contre cette information, mais deux jours plus tard, il me redemande, et là, je passe une espèce d'oral face à un jury composé de militaires et de hauts responsables de l'ONU, à l'OMS, l'UNICEF, et surtout l'état-major de la MINUSTAH. Et il m'interroge, me repose les questions, ça se passe en anglais, c'est moins facile. Et puis ensuite, ils font rentrer des médecins qui sont allés voir ce qui se passait dans ce camp et qui disent que, en tout cas, eux n'ont rien vu de spécial. Tout allait bien. Semble-t-il, il n'y avait pas de malades. Et ils ont fait des prélèvements, tout était propre, tout était stérile. Et là, plusieurs enseignements. Je comprends qu'il y a une résistance d'ordre politique et je vais mettre pas mal de temps quand même à comprendre comment se constitue cette résistance. L'OMS en particulier et les CDC, c'est les Center for Disease Control qui travaillent aux États-Unis à l'investigation des épidémies, expliquent que finalement, c'est pas important de savoir l'origine de l'épidémie. On sait que c'est pas les humanitaires, c'est pas des gens de l'extérieur, mais on aura du mal à trouver la cause. C'est un mystère. Le mot mystère est même prononcé. Ce qui est important, c'est pas de chercher la cause de l'épidémie. Ce qui est important, c'est de prendre en charge les patients, les soigner. Et c'est ça qu'il faut faire dans une épidémie. Dans n'importe quel pays, si on vous dit il y a une calamité, et on n'en connaît pas la cause, c'est mystérieux, mais c'est pas grave, ça laisse les imaginations travailler. Et donc, les villageois commencent à considérer que ce mystère, en fait, c'est des empoisonnements et cherchent des responsables. Et il y a eu donc comme ça, finalement, plusieurs dizaines de lynchages qui ont eu lieu au mois de novembre et au mois de décembre 2010.
The head of Haiti's voodoo religion has called on authorities to act after 45 voodoo priests have been murdered in recent weeks after being blamed for causing the Caribbean country's deadly cholera outbreak.
Et ce qui est intéressant, c'est que des scientifiques vont s'emparer de ça. Il y a à ce moment-là une théorie qui est érigée en paradigme, qui dit que le choléra, finalement, c'est une maladie environnementale très liée aux évolutions du climat. Et donc, des scientifiques américains montent au créneau pour expliquer à la presse que tout ça était fort banal. Déjà, ils ne disent pas qu'il n'y avait pas de choléra de toute l'histoire d'Haïti. Ils disent que c'est le retour du choléra, ce qui sous-entend qu'il y avait eu du choléra, mais sans dire quand, comment et pourquoi. Et ce retour du choléra est lié finalement à des anomalies climatiques, peut-être aussi aux tremblements de terre, parce que des glissements de terrain modifient la composition chimique des rivières, et donc ça facilite la prolifération de la bactérie Vibrio cholerae. Ils disent qu'il a fait chaud pendant l'été 2010 et que ça a été l'occasion pour que du plancton se multiplie, et que c'est cette multiplication environnementale qui est à l'origine ensuite de l'émergence du choléra dans les endroits où le vibrio choléré serait le plus à l'aise, c'est-à-dire dans les zones d'Osomatre. Et donc commence à expliquer que l'histoire des soldats népalais, c'est juste une rumeur, qu'à l'inverse, quand on réfléchit bien, on comprend bien que tout ça, c'est lié à l'environnement et au climat. L'hypothèse environnementale du choléra est très séduisante, de même que l'hypothèse de la survenue de pandémies liées à la déforestation, parce que ce sont d'abord des hypothèses qui nous ramènent à des problématiques que l'on voit de plus en plus importantes, que je ne conteste pas. Par exemple, pour le choléra, la problématique du réchauffement climatique. Le fait de dire que le choléra est lié à l'environnement et à la température de l'eau, aux proliférations de plancton, etc., donne une explication globale qui correspond à ce qu'on attend finalement. On a ce réchauffement climatique et on attend que ça provoque des problèmes de santé importants. Et le choléra devient assez rapidement l'exemple type, l'archétype de maladie liée à l'environnement. Donc c'est déjà une théorie qui plaît beaucoup. Mais ça ne rend pas compte de l'effet falaise. C'est-à-dire zéro cas jusqu'au 19 octobre et 1000 cas le 20 octobre. Donc quelque chose de complètement inexplicable par cette théorie qui, dans ces cas-là, aurait donné quelques premiers cas et puis ensuite, il se serait transmis d'homme à homme, recontamination de l'environnement et puis, progressivement, l'épidémie se lance. L'épidémiologiste doit prendre au sérieux les rumeurs qui disent « il y a une épidémie à tel endroit » ou « il y a eu des cas à tel endroit » alors qu'on pense que ça a démarré ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Haïti. Tout le monde a été focalisé sur l'épidémie du delta de l'Artibonite, mais il y avait des centaines de cas ailleurs. Et donc, ce qui était appelé rumeur était quand même une information à vérifier. Est-ce que oui ou non, dans le département du centre, autour de la ville de Mirbalay, il y avait eu des cas de choléra ou des cas suspects de choléra? Et la réponse était clairement oui.
Une épidémie de choléra a enrayé un pays à reconstruire. Voici les enjeux des élections présidentielles et législatives du 28 novembre.
Dans ce contexte électoral très compliqué, il n'est pas question d'aller devant les journalistes et dire ben, « vous savez, finalement, cette histoire-là, c'est pas du tout le climat dans le bas de l'Artibonite, c'est les soldats qui sont arrivés, qui probablement ont eu le choléra, ils ne l'ont pas dit, et ensuite leur fosse septique s'est remplie, et elle a été déversée dans l'Artibonite, et voilà ce qui a déclenché l'épidémie. » C'est compliqué à dire, les gens sont énervés, plus qu'énervés en Haïti, et il est clair que rien ne doit être dit avant le premier tour des élections, parce que c'est déjà très compliqué à gérer. Les élections ont lieu le 27 novembre. Moi, je rentre à ce moment-là. J'écris mon rapport, assez bref, assez factuel, qui explique comment l'épidémie a débuté et qui donc focalise sur une origine liée au camp militaire, au camp Annapurna. Je l'écris sachant que tôt ou tard, son contenu sera connu. Quand on a ce genre de situation, on ne doit pas travailler seul. On constitue une petite équipe et on réfléchit de savoir quelle est la meilleure option. Je ne pouvais pas prendre tout seul cette décision. Je me suis dit, bon, ben, je vais prendre des gens, je vais aller voir à MSF. Il y a des personnes très expérimentées, il y a Véronique Broman, Marie-Pierre Allier et d'autres personnes donc, qui ont beaucoup d'expérience. Et on a discuté et on est tombé d'accord sur le fait que ne rien dire, mentir à la population et mentir à l'opinion publique mondiale était au moins aussi grave que les considérations géopolitiques qui pouvaient nous dire « bon, bah tiens, on va pas leur dire, c'est pas grave, ça va pas changer ». Raconter n'importe quoi à la population n'est pas quelque chose à faire parce que ça revient en boomerang. La confiance est une valeur clé dans la politique globalement, mais en contexte d'épidémie, c'est indispensable parce qu'on va demander à la population de prendre des mesures, de changer son mode de vie. Et s'il ne croit pas à ce qui se passe, ce ne sera pas appliqué. On pèse le pour et le contre et on s'aperçoit qu'il y a nécessité d'obtenir la confiance de la population pour la lutte. On s'aperçoit aussi que mieux connaître la cause permettrait d'éviter des récidives. Et pour toutes ces raisons, on dit il vaut mieux que la population le sache. J'envoie mon rapport à l'OMS qui le transmet à l'ONU. Et l'ONU se trouve face à un rapport que un certain nombre de journalistes reprennent, disant il y a un épidémiologiste qui connaît son métier et qui dit que c'est lié à une rotation, à une relève de soldats de l'ONU. Et Ban Ki-moon, donc secrétaire général de l'ONU à ce moment-là, monte au créneau en disant, d'une manière très solennelle, on prend en compte ce rapport, mais ce n'est pas ce que disent d'autres personnes, mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Donc Ban Ki-moon décide de nommer un panel indépendant qui va investiguer, qui va faire finalement cette enquête sur l'origine de l'épidémie de choléra. Après avoir dit que ça ne servait à rien, finalement, on va faire ça et les Haïtiens méritent bien qu'on s'intéresse à ce sujet.
Une équipe scientifique est donc mandatée par l'ONU pour enquêter en Haïti. Mais comment s'assurer de la réelle indépendance de cette équipe ? Et sauront-ils rester neutres ?
Ban Ki-moon a dit lors d'une conférence de presse qu'il allait nommer des chercheurs, des experts, évidemment les meilleurs au monde, pour aller chercher l'origine.
Troisième épisode, la controverse scientifique.
Ça ressemble à ce qui a été fait à propos de la Covid. On a exactement le même mécanisme. À un moment, le problème de l'origine finit par se poser et on envoie une équipe avec les meilleurs scientifiques du monde qui va résoudre ce problème. Simplement, le mode de sélection de ces chercheurs n'est pas forcément complètement neutre. On a beau dire qu'ils sont indépendants, ils peuvent avoir une vision des maladies, une vision de l'épidémie particulière. Concernant le choléra en Haïti, c'était très simple. Il existait une théorie qui fait du choléra finalement une maladie dépendante de l'environnement. Et donc cette théorie est développée par un certain nombre de chercheurs essentiellement américains, avec à leur tête deux professeurs qui vraiment sont très impliqués dans cette théorie. La première, c'est la professeure Rita Colwell. Elle est vraiment, on pourrait dire, la papesse du choléra. Elle est connue comme telle, elle a reçu tous les prix scientifiques, justement pour avoir développé cette théorie environnementale du choléra. Il y a un autre professeur qui a aussi une très grande audience, qui est le professeur David Sack. L'ONU ne va pas embaucher officiellement dans ce panel ni Rita Colwell ni David Sack, mais ils vont choisir trois de leurs collaborateurs les plus étroits, enfin des gens qui ont travaillé depuis longtemps avec eux, qui ont beaucoup publié avec eux, auxquels ils ajoutent une ingénieure qui, elle, va surtout voir les aspects eau et sanitation. Et ce panel est constitué et dirigé par un chercheur mexicain qui s'appelle Alejandro Cravioto. Et c'est lui qui va donc organiser l'enquête. On explique évidemment qu'ils auront accès à toutes les sources. Ils ont d'autant plus accès à toutes les sources qui sont briefées d'emblée. Et l'ONU pense à ce moment-là à mandater, payer l'un des ténors du choléra, le professeur David Sack, déjà pour bien orienter la recherche, faire un contre-rapport par rapport à mon propre rapport. Évidemment, ce rapport n'est pas officiel, mais on a fini par l'obtenir. Une fois briefé, ça prend déjà un peu de temps. Ils viennent voir les responsables du CDC, ils viennent voir les responsables de l'Organisation Panaméricaine de Santé, les responsables de l'ONU, et ensuite seulement, ils vont sur le terrain, convaincus qu'ils vont aller trouver dans le delta de l'Artibonite l'origine de l'épidémie. Ils vont là-bas et ils ne trouvent rien. Ils se disputent un peu d'ailleurs avec les collègues haïtiens, s'ils m'ont raconté ça. Et finalement, ils vont aussi dans le coin de Mirbalais. Et là, comme tout n'a pas été parfaitement nettoyé, et il y a toujours cette fosse septique à l'air libre, cette espèce de mare, ils la voient, ils la prennent en photo, ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas fermée, que les animaux divaguent le long de ce cloaque, que les enfants peuvent aller y jouer. Enfin, c'est quelque chose de vraiment infâme. Ils ont bien conscience qu'il y a un gros problème dans l'eau et surtout l'assainissement de ce camp militaire. Ils s'aperçoivent aussi que le choléra a effectivement débuté à cet endroit-là. Et donc, il va y avoir quelque chose qu'on va retrouver dans le rapport OMS sur la Covid, qui est un mélange de faits précis, on va dire accablants, et d'une interprétation qui laisse quand même la place à quelques considérations plus politiques que l'ONU va pouvoir utiliser. L'effet accablant, c'est ce que je vous ai dit. Ça a bien démarré dans ce petit village de Meid, juste en face du camp Annapurna. Il y a bien cette histoire d'assainissement. Et donc, ils disent, c'est lié à une activité humaine. Enfin, c'est lié aux excréta. Mais ils disent, cette épidémie n'aurait pas eu une telle ampleur si les Haïtiens avaient un bon système de santé, un bon accès à l'eau potable, un assainissement parfait, et si l'environnement haïtien, c'est leur théorie, n'avait pas aidé à la prolifération de la bactérie. C'est juste une théorie. C'est pas quelque chose qu'ils ont montré. Mais ils le disent, ils le mettent dans les explications. Et à la fin, ils disent, finalement, alors que ce sont des scientifiques, mais ils se posent plus du point de vue moral, puisque c'était pas volontaire, et que personne n'a fait ça exprès, c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est qu'il y a eu un ensemble de facteurs qui ont amené cette épidémie, et maintenant, ça n'a plus tellement d'intérêt. Ils disent c'est irrelevant, ça n'est pas important de savoir d'où ça vient. Ce qui compte maintenant, c'est de prendre en charge les gens. Donc, ils ont une espèce de sentence, presque au sens juridique du terme, finale, qui disent « personne n'est responsable ». Quand je repense au travail de ce panel, et en particulier du leader de ce panel, avec qui j'ai discuté longuement, avec qui j'ai fait passer énormément d'informations, je m'aperçois qu'il n'était pas très enclin à diffuser ce type d'informations. Je ne suis même pas sûr que tout le panel ait eu ces informations. 2 ans après, je me suis aperçu qu'en même temps qu'il était l'arbitre entre la théorie environnementale et le rôle des soldats népalais, il travaillait avec le professeur Rita Colwell à essayer de démontrer le rôle des souches autochtones de Vibrio cholerae dans l'épidémie. C'est un article qui a été publié en 2012 qui a relancé la polémique. Et donc, ce monsieur était à la fois le leader des enquêteurs et en même temps, il travaille avec le professeur Rita Colwell pour démontrer qu'il y a un rôle environnemental dans ce choléra. Donc, c'est un peu l'arbitre qui prend de temps en temps le maillot d'une équipe pour essayer d'aller marquer un but. Quand on parle de cette publication qui est sortie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, qui est une revue importante, quand on regarde de près cet article, il présente le choléra comme étant la conséquence du tremblement de terre, du temps qu'il a fait, etc. Et il présente une figure qui, quand on la décortique, est une figure qui a été construite sur une carte qui avait été produite au tout début de l'épidémie, qui montrait le point de départ du choléra et la situation en Haïti à ce moment-là, avec les camps où se trouvaient les personnes victimes du tremblement de terre. Et il y avait sur cette carte une explication qui posait problème par rapport à la théorie du professeur Colwell, qui était le fait que l'épidémie avait démarré loin de la zone touchée par le tremblement de terre et qu'elle avait déjà fait beaucoup de morts, etc. Mais le fait que ce soit loin était écrit. Et ça pouvait gêner. Et ce qui est intéressant, c'est que non, déjà, on n'a pas le droit de reprendre une figure sans donner la source, ce qu'elle avait fait. Mais en plus, pour éviter d'avoir à discuter ça, mis quelque chose dessus, une sorte de cartouche qui cache cette phrase qui était gênante et qui contredisait complètement l'introduction de son article. Donc on est quand même dans de la manipulation scientifique, mais fait au plus haut niveau, pas de la manière la plus élégante, mais au plus haut niveau. Quand les scientifiques américains vont parler aux médias, ils leur apportent d'abord une explication. Et ça permet de relier cette épidémie à une histoire plus vaste, qui est notre histoire du monde, le réchauffement, les modifications que l'on fait à l'environnement, et finalement, le risque qui augmente avec ce réchauffement climatique. Donc ça apporte aux médias ce qu'ils veulent. Et ça marche extrêmement bien. Partout, les gens rebondissent sur ces explications et disent, mais de toute façon, il y avait d'un côté les Haïtiens qui véhiculent une rumeur, donc il y a une dévalorisation quelque part de ceux qui disent c'est les militaires, et une valorisation de grands scientifiques qui ont le savoir, c'est les sachants, ils sont pas forcément sur place, ils sont plutôt dans leur laboratoire, en particulier aux États-Unis, qui expliquent que tout ça est très clairement la conséquence de ce qui se passe sur notre planète, de la manière dont on fait souffrir la planète. Et je trouve que là encore, quand on parle du début des pandémies, on y reviendra dans d'autres cas, cette parole qui associe un problème de santé, une épidémie, une pandémie à la souffrance de l'environnement passe très bien et vient des fois obscurcir d'autres causes qui sont importantes à prendre en compte aussi. Quelques mois après le rapport de l'OMS et la publication aussi dans une revue scientifique de mon propre rapport, qui a donc été validé par les pairs, un chercheur danois qui s'appelle René Hendriksen a une idée à la fois toute bête et géniale. Il se dit, mais pourquoi j'écrirais pas aux biologistes népalais en leur disant, vous avez eu une épidémie durant l'été 2010 et au début de l'automne 2010, vous avez certainement dû faire des analyses, vous avez certainement isolé des souches, et il y a une controverse qui dit que ce sont des soldats népalais qui ont amené le choléra. En fait, il y a moyen de savoir. Vous pouvez prouver votre bonne foi ou la non-implication du Népal rien qu'en nous fournissant les souches. On va les étudier à fond et on va pouvoir dire ce qu'il en est. À ce moment-là, le séquençage était plus compliqué à faire. C'est une bactérie, c'est assez grand et on est en 2010-2011, donc une période où c'est pas encore complètement démocratisé. Et ils font le séquençage, ils lisent la totalité de la séquence de plusieurs souches isolées au Népal à l'été 2010, et ils s'aperçoivent que parmi ces séquences, il y en a une qui est exactement la même que celle qui va déclencher l'épidémie d'Haïti. Donc on a là, comme dans la gendarmerie ou la police, une sorte de preuve ADN, on a l'ADN du coupable en quelque sorte. Et on sait que c'est exactement cette souche. On va chercher d'autres souches qui ressemblent partout dans le monde, on ne trouvera jamais de souches aussi proches, aussi comparables que celles qu'il y avait à la fois au Népal et en Haïti. Donc la démonstration devient de plus en plus solide et ça débouche d'ailleurs sur un cas d'école, une publication dans une grande revue où différents chercheurs vont participer pour dire voilà comment la science a pu résoudre une controverse en expliquant que finalement cette analyse de l'ADN plus les considérations épidémiologiques recueillies sur le terrain permettent d'affirmer sans aucun doute maintenant que le microbe a bien été rapporté du Népal par les soldats. À partir de 2012-2013, grâce à ses travaux sur l'ADN des souches, qui viennent s'ajouter aux travaux d'épidémiologie, validés par des publications, on avance vers une preuve de plus en plus difficile à réfuter de l'implication de ces soldats népalais, involontairement, hein, mais une implication quand même, dans l'épidémie, liée à une manière extrêmement désinvolte de gérer les fosses septiques de ce camp-là. Et il va y avoir des discussions juridiques, des avocats vont s'emparer de l'affaire, mais l'ONU ayant une immunité la plus totale, il n'y aura jamais de mise en cause de l'ONU de ce côté-là. Par contre, au fil du temps, à l'intérieur même de l'ONU, un certain nombre de personnes commencent à trouver que cette histoire-là et ce refus de prendre en compte la souffrance de la population haïtienne et son désir de connaître la vérité pourrait être délétère à l'ONU. D'accord, sur le plan juridique, l'ONU n'aura jamais de responsabilité, mais quand même, il faut à la fois reconnaître la responsabilité et proposer des solutions.
Je tiens à m'adresser directement au peuple haïtien.
Ils vont mettre 6 ans pour ça, mais au bout de 6 ans, l'ONU revoit sa position.
Je vais donc commencer en créole.
Et Ban Ki-moon va finir par le faire. Il est à la fin de son 2e mandat comme secrétaire général de l'ONU. Il va s'adresser à la population haïtienne.
Je dis à ma petite pépassienne, on est respect.
En français, en anglais et en créole haïtien pour demander pardon.
The United Nations deeply regrets the loss of life and les souffrances causées par l'épidémie de choléra. Nang non, Nations Unies, moins vous l'avez dit à clé. We apologize to the Haitian people. Nous n'avons tout simplement pas fait assez. Nous regrettons en pile. We are profoundly sorry for our role. Nous sommes profondément désolés pour notre rôle.
L'ONU a enfin reconnu sa responsabilité dans l'apparition de l'épidémie. Une reconnaissance qui va peu à peu redéfinir la stratégie de lutte contre le choléra en Haïti.
Le fait que l'ONU ait mis en avant une cause environnementale reprise par des scientifiques a eu une influence très très importante au début quand il s'est agi de définir la stratégie de lutte contre le choléra.
4e épisode, le combat contre l'épidémie.
Fin 2012, début 2013, Haïti a un plan de lutte, même un plan d'élimination du choléra. Et ce plan-là commence dans son résumé stratégique par dire « On veut éliminer le choléra en Haïti, mais comme la bactérie est dans l'environnement, ça veut dire qu'il y aura toujours des cas. Et s'il y a toujours des cas, à quoi bon s'acharner à chercher les derniers cas? À quoi bon finalement éliminer ? Tout ce qui reste à faire, c'est essayer d'améliorer le niveau de vie d'Haïti, et ça, ça peut prendre des décennies, voire plus, pour que le choléra ait de moins en moins d'impact. » Et ça, ça représente un magnifique plan, mais un plan sur des décennies, et qui aura du mal à être financé, parce que c'est même pas vraiment chiffré, mais enfin, à la fin, il y a quand même marqué « il faut 2,2 milliards de dollars ». Personne n'est prêt à donner 2,2 milliards de dollars au gouvernement haïtien pour organiser les soins, la prise en charge des patients, l'accès à l'eau potable pour la population. Et en plus, ça ne suffirait même pas. Autrement dit, le plan est un affichage pour dire on prend en compte l'histoire, mais comme on est sur l'idée qu'on ne se débarrassera pas du choléra, on ne cherche pas à faire quelque chose qui pouvait venir naturellement, qui est de se dire on va essayer de casser les chaînes de transmission. Casser les chaînes de transmission, c'est faire en sorte qu'une personne qui a le choléra contamine pas son entourage et l'entourage de cet entourage ne soit pas contaminé. Un peu comme quand on fait le contact tracking dans les épidémies de Covid maintenant. On le faisait aussi dans les épidémies d'Ebola. Et ça n'est pas dans le plan. À partir de 2013, avec des collègues, en particulier marseillais, et nos collègues haïtiens, on a essayé de sensibiliser des décideurs. Je commençais par l'ambassadeur de France que j'ai rencontré fin 2012, et puis surtout le représentant de l'UNICEF, pour lui dire il y a quelque chose qui est possible. Il faut que l'on agisse autour des cas et qu'on essaye de limiter la transmission et d'étouffer petit à petit l'épidémie, en particulier dans les périodes d'accalmie, quand il reste quelques foyers, par exemple pendant les saisons sèches, pour justement éviter que ce soit ces foyers qui relancent l'épidémie au niveau de l'ensemble du pays. Et on est là au bout de 3 ans de lutte sans grand succès. Les acteurs sont quand même assez désespérés et le représentant de l'UNICEF dit « Banco, je vais faire tout mon possible pour qu'on puisse faire ça ». Et l'UNICEF se met à coordonner un groupe d'organisations non gouvernementales qui va agir en relation avec les services haïtiens, les hôpitaux et les services d'épidémiologie pour que chaque fois qu'on repère des cas de choléra quelque part, des équipes se rendent sur place et aident à limiter la transmission. Alors comment on peut aider ? En aidant les familles à protéger leur eau, puisque l'eau est vraiment un vecteur très important. On leur donne des comprimés de chlore, on leur donne de quoi la stocker de manière correcte, en traitant aussi l'environnement. S'il y a une source, en mettant un point de chloration, une personne qui est là, qui va chlorer l'eau à chaque fois que les gens viennent chercher de l'eau pour les ménages, et aussi en traitant les sujets contacts. Des gens qui sont de la famille même d'une personne qui vient d'être hospitalisée pour choléra, ils sont peut-être en train d'incuber le choléra. On va leur donner un traitement très simple, un antibiotique qui tue la bactérie du choléra, de manière à ce qu'on arrête la maladie avant qu'elle se déclenche. L'ensemble est appelé des interventions centrées autour des cas. En anglais, ça fait « Case Area Targeted Interventions », des CATI. Et c'est cette technique des CATI qui existait pour la maladie Ebola, qu'on avait déjà essayé sur le choléra aux Comores, qui va être utilisé. Et petit à petit, on arrive un peu à contrôler, mais on manque d'argent, on manque d'équipe. Alors, en 2016, quand Ban Ki-moon fait ses excuses au peuple haïtien, et d'ailleurs ajoute derrière, on va donner de l'argent pour la lutte, là, effectivement, on se dit, c'est le moment de pousser. En réalité, l'ONU n'a pas d'argent. Donc l'ONU ne donne pas d'argent. Mais l'ONU peut être là pour dire aux autres, donnez de l'argent. Ça marche plus ou moins. Ils promettaient 400 millions, il en est arrivé 20, et encore sur les 20, 10 millions sont arrivés alors qu'il y avait déjà plus de choléra. Mais avec les 10 millions qu'on a pu avoir, plus d'autres financements, le Japon, le Canada, la Banque mondiale, il y a eu suffisamment d'argent pour augmenter le nombre de ces équipes qui intervenaient auprès des cas. Et à partir de fin 2016, il y a eu une baisse plus importante du nombre de cas de choléra que la baisse des financements. Donc petit à petit, on avait de plus en plus d'équipes par rapport au nombre de cas et on a pu intervenir sur chacun des cas. Le choléra continuait à persister sous la forme de petits foyers pendant encore l'année 2018 et début 2019. Le dernier cas de choléra a eu lieu dans le delta de l'Artibonite, dans une ville qui s'appelle Lester. Et depuis, il n'y a plus un seul cas de choléra, on en est à 3 ans. Normalement, l'OMS devrait déclarer l'élimination du choléra. Elle ne l'a pas fait. Parce que les experts de l'OMS continuent à se dire « Mais comment ça se fait ? Le choléra devait être dans l'environnement, il devait y avoir des cas, c'est qu'on ne les a pas encore trouvés. » On a toujours un débat entre l'UNICEF et l'OMS en particulier. L'UNICEF veut dire « Mais il n'y en a plus, ça fait 3 ans, il n'y en a plus, c'est terminé, on passe à autre chose. » Et l'OMS dit « Oh, mais quand même, la théorie environnementale dit que... » Et cette théorie, ce paradigme environnemental, n'a pas totalement disparu. Un certain nombre de personnes commencent à le remettre en question. Je vous ai parlé de 2 scientifiques qui le portaient particulièrement. L'une, professeur Rita Colwell, continue à dire paradigme environnemental, tout ce qui est côtier.
Direct Il y a une corrélation directe entre le changement climatique et la santé humaine.
L'hôte David Sack travaille maintenant sur le choléra en Afrique et il vient de publier un article pour dire ben, en Afrique et en Haïti, mais il ne veut plus parler d'Haïti, en Afrique et en Haïti, c'est pas comme en Asie. Le choléra, c'est plutôt des personnes qui le transportent, qui amènent l'épidémie. L'épidémie flambe, puis ça passe à un autre endroit, etc. Donc, il reprend l'histoire telle qu'on finalement on l'a avec les casques bleus népalais. Mais il continue à se dire, mais en Asie quand même, bon, faut encore passer un peu de temps, et je pense qu'il comprendra que cette théorie environnementale était fort sympathique, très belle, mais elle n'explique pas ce qui s'est passé en Haïti, elle n'explique pas ce qui se passe dans plein de pays d'Afrique, où tout d'un coup, on peut avoir une disparition du choléra, parce qu'en fait, il ne persiste pas dans l'environnement, il suffit d'agir suffisamment près des foyers pour pouvoir l'éliminer. Donc on n'a pas encore tout appris dans la lutte contre le choléra. L'histoire de l'épidémie d'Haïti se déroule sur une période de 10 ans. Et elle commence justement par le décryptage du génome de la souche haïtienne assez tôt. C'était quelque chose qui était difficile à faire à ce moment-là, qui permet de lire la totalité du génome, comme ce serait un livre avec 4 millions de caractères, c'est un gros bouquin. Hein. Et la totalité du génome est connue, et c'est ce qui a permis, très rapidement, dans l'année 2011, de comparer ce génome avec le même livre écrit au Népal, et pour voir que c'était la même chose. Et en fait, c'est le début d'un travail plus systématique, qui a consisté à reprendre les souches qui avaient été conservées, d'abord de toute la période de la 7e pandémie de choléra, qui a commencé en Indonésie en 1960. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, toutes les souches étaient apparentées, se reliaient. C'est comme un arbre qui revient sur un même tronc, qui nous amène au début de la pandémie en 1960. Il n'y a pas une souche épidémique de choléra, avec une épidémie de dizaines ou de centaines de cas, qui ne soit pas le descendant de cette souche qui sévissait en Indonésie dans les années 60. Ça veut dire que les autres souches de Vibrio cholerae qui sont dans l'environnement n'interviennent pas dans les épidémies de choléra. Parce qu'il y en a plein dans l'environnement, il y a une très grande variété. Mais toutes les souches de choléra découlent d'une seule qui était en Indonésie en 1960. On est passé d'une histoire d'un choléra environnemental, réchauffement climatique, à une histoire d'un germe qui va s'équiper petit à petit, comme dans les jeux de rôle, il va récupérer la bonne épée, le bon bouclier, etc. La bonne manière de se transmettre, et plus il se transmet d'homme à homme, moins il a d'interaction avec les autres Vibrio cholerae de l'environnement. Ils finissent par s'ignorer mutuellement. Si bien que, quand après une épidémie, le choléra va dans l'environnement, eh bien, il ne persiste pas. Il disparaît. Et c'est l'homme, en transportant le Vibrio cholerae d'un endroit à l'autre, qui est responsable de ces épidémies. Ça peut changer radicalement la manière d'aborder la lutte contre les épidémies, mais il faut encore un peu de temps pour que ce changement de paradigme fasse son chemin. Toute cette histoire apporte quand même un certain nombre d'enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'une épidémie, ça n'est pas que la sommation des cas, ça n'est pas qu'un problème de santé publique, c'est un problème politique, c'est un problème stratégique, et si on va sur une pandémie, ce sera encore plus important. Donc, quelque chose qu'il faut gérer avec les décideurs, et il y a un problème à régler de communication entre scientifiques et décideurs. La deuxième chose que j'ai apprise dans cette histoire, c'est la dualité de la parole scientifique. Elle peut aider, des scientifiques peuvent apporter des informations, des explications, mais elle peut tout à fait aller dans l'autre sens si les explications ne sont pas les bonnes et il y a quelques allers-retours entre scientifiques et politiques. quand on prend l'histoire du choléra en Haïti, le fait d'essayer de montrer un point de départ différent de ce qu'il était a désorienté les scientifiques. Mais les scientifiques eux-mêmes, en apportant une théorie inadaptée, ont désorienté les politiques. Et l'un plus l'autre finit par amener à une épidémie à perdurer quand on a déjà les moyens de s'en débarrasser. On ne le sait pas, on n'applique pas les bonnes méthodes, simplement parce qu'il y a eu cet aller-retour entre scientifiques et politiques. C'est quelque chose de très important qui va être un souci dans d'autres épidémies.
Mécanique des épidémies, première saison, le choléra. Réalisation Clément Nouguier. À la technique, Julie Garraud. Conseillère au programme, Camille Renard. Avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À venir, Mécanique des épidémies, deuxième saison, le sida.
Et maintenant, un petit peu de musique.
Souvent lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque, pour me mettre dans le bain, je connais un bon moyen. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter
du silicate anhydrique, le magnésium, du pas du sulfo gaïacolate de potassium, du glycéro-hydrate mono-ammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzénotocopérol, du gaz oxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfonatrophénamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alinisopropylorbiturique, de l'éthavazylammoniumprofil phosphorique, de l'acétylaménéphénylarcinazole, du gaz oxypropanédiol en capsule. Vieux remède de bonne femme, mon grand-père d'un geste fier en sortait de sa tabatière. Papa qui était estafette en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac. Ah, du silicate anhydrique de magnésium, du quoi du sulfo gaïacolate de potassium, du glycérohydrate mono-ammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzénotocopérol, du gazoxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénisulfonatamphétamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alinisopropylbarbiturique, de l'éthavazylammoniumprotéphosphorique, de l'acétylaménéphénylarcinazole, du gazoxypropanédiol en capsule.
Et si vraiment ça ne va pas mieux, pas mieux, pas mieux, je prends deux ou trois aspirines.